Jean Lebrun, le vif de l'histoire, riche actualité diplomatique depuis une semaine et la tournée de Joe Biden en Europe. Dans le vif aujourd'hui, réflexion sur une ville et un organisme qui ont tenté de donner corps à ce concept vague de communauté internationale. C'est à Genève que se tient aujourd'hui la rencontre Poutine-Biden. Genève, capitale internationale depuis la naissance de la Société des Nations. L'ancêtre de l'ONU, c'était en 1919. Société des Nations à laquelle on peut ou pas adhérer Moscou et Washington.
Eh ben, c'est quand même une idée qui vient du président américain Wilson. On l'a comparé à la chevalerie de la table ronde. Vous savez, les chevaliers du roi Arthur sont tous à égale distance les uns des autres et s'observent. Mais l'idée est américaine. Il faut délégitimer la guerre, vive la sécurité collective, répète Wilson. Alors que le Congrès ensuite à Washington ait refusé l'adhésion à la SDN, c'est une autre affaire qui relève de la tradition isolationniste des États-Unis. Mais sans le président, l'ouverture solennelle de la SDN le 15 novembre 1920 n'aurait pas eu lieu.
Et c'est donc à Genève, Suisse, que naît la SDN.
Oui, Wilson, fils de pasteur, connaissait le rôle de Calvin. Il avait comme d'autres apprécié celui de la Croix-Rouge, qui avait œuvré depuis Genève à la recherche et à la protection des prisonniers de guerre. Et le Conseil fédéral helvétique était prêt à tendre les bras à la nouvelle institution. La population, un peu moins, hein, qui consultait par votation, n'a pas répondu par un oui très net. Mais enfin, là, il n'y a rien d'étonnant. Nous sommes en Suisse, neutralité et isolationnisme vont de pair. Au début, les diplomates qui viendront travailler à Genève trouveront d'ailleurs la ville un peu austère, mais enfin, on y voit le massif du Mont Blanc.
Alors, la SDN, c'est 42 États au moment de l'ouverture, et pas seulement des Européens. C'est bien une instance devenue planétaire au fil des années.
Avec des pays d'Asie et d'Afrique qui sont reconnus comme adultes dès lors que leur adhésion est acceptée. Ce qui manque pas de sel quand il s'agit de pays antiques comme l'Éthiopie, 1923, l'Irak, 1932, l'Égypte, 1937. Au moment de l'ouverture, le président de la Confédération helvétique, Giuseppe Motta, un Tessinois, avait recommandé que les pays vainqueurs de 14-18 ne rejettent pas pour toujours la collaboration avec les vaincus. Ceux-ci ont fini par être admis, l'Allemagne, en 1926. Alors cette date, ça marque un peu l'apogée de la SDN, mais c'est aussi un faux semblant, parce que l'Allemagne de la République de Weimar, qui joue alors la carte de la paix, le fait par des accords particuliers plutôt que par le système multilatéral SDNien.
SDNien.
Oui, comme onusien, voyez.
Ah, SDN,
en 1925,
SDNien, d'accord.
Par exemple, l'Allemagne a signé en Suisse, à Locarno, le pacte qui est garanti par 4 signataires seulement, Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni.
Alors le pacte de la SDN, SDNien si vous y tenez, prévoit pourtant qu'en cas d'agression d'un membre par un autre, eh bien des mesures de rétorsion soient appliquées par tous.
Eh bien, ne le seront jamais.
Bon.
Quand la Mandchourie chinoise sera occupée par le Japon en 1931. Souvenez-vous, Tintin, le lotus bleu. Quand l'Éthiopie sera occupée par l'Italie en 1935, la SDN sera impuissante. Les années 30 seront celles de son échec. Hitler s'en retirera en 1934. Son deuxième secrétaire général passera son temps à multiplier en vain les accommodements avec les dictatures. C'est un Français d'ailleurs, mais qui se souvient seulement de son nom? Joseph Avenol. C'est lui qui a inauguré le Grand Palais des Nations, décoré par le peintre catalan, certes spécialiste du trompe-l'œil. Avenol, ensuite, va accompagner la réduction du personnel de 700 à 100 en 1939.
À propos de personnel, vous parliez de Tintin, on pourrait parler d'Albert Cohen. Le personnel SDNien, il le décrit dans Belle du Seigneur.
Un passage particulièrement connu montre le personnage principal, Adrien, qui compte ses jours de congé prévisibles avec son élégant porte-mine en or. Il arrive, au bout de 3 pages, à 87 jours, plus les 52 samedi matin, parce que pour 2 heures de travail, pourquoi faire le trajet entre sa villa patricienne des bords du lac et le palais des nations. Et quand on lui parle des textes inutiles qu'il rédige avec le même porte-mine et qu'il agrafe ensuite, il montre ses deux instruments menaçants, le porte-mine donc, et l'agrafeuse, comme s'ils étaient des mitrailleuses capables d'arrêter les dictateurs. Et il fait un nouveau calcul, attention, 80 agrafe à l'heure. En fait, la SDN, au moment de sa fin, était renvoyée à la périphérie des affaires mondiales qui se traitaient comme avant 14 par l'affrontement direct des chancelleries nationales, comme aujourd'hui, où sur fond de la clémence, certes, nous assistons au face-à-face brut de deux puissances, les États-Unis et la Russie.
Merci Jean Lebrun. France Inter.